Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous en podcast, Tablette Café. Tablette Café, c'est toute l'actualité des tablettes tactiles, des recommandations d'applications et des tests, des opinions qui n'iront sans doute pas toutes dans le même sens, mais qui laisseront place à pas mal de débats. Ce soir, à mes côtés pour tous ces débats, je retrouve Cédric, rédacteur en chef de tablettetactile.net. Bonsoir Cédric.
Bonsoir à tous.
Et nous avons également deux invités ce soir. Nous avons Pierre-Olivier Diebmann.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre-Olivier, donc tu es cofondateur de FR Android, est-ce que je le prononce bien, .com.
On n'a pas vraiment de règles de prononciation dans l'équipe, il y a ceux qui disent Android et ceux qui disent FR Android, donc bon voilà, il n'y a pas vraiment de règles, mais en tout cas, effectivement, c'est ça, je fais partie des quatre personnes à l'origine de ce site, et aussi de lesardoises.com, donc site sur les tablettes dont on va parler ce soir.
Parfait. Et la connexion est pas optimale parce que malheureusement c'est beaucoup dire, tu n'es pas à côté de nous puisque tu es au Canada, n'est-ce pas?
Tout à fait. Effectivement, moi je suis basé à Montréal.
Donc je pense que
on n'a pas forcément la chance d'avoir des free ou ce genre de d'acteurs de l'internet moderne.
Et puis, le deuxième invité de ce numéro 1 de Tablette Café, c'est Murat Demir. Demir ou Demir ?
Demir.
Demir, rédacteur en chef de apple-i-pad.fr.
C'est bien ça, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Donc, pour présenter rapidement mon blog, c'est un condensé de l'actualité iPad en France et dans le monde. Donc, c'est pas que des news, c'est aussi des tests d'accessoires et d'applications. Et le blog se veut également un peu participatif et pédagogue en offrant un espace consacré aux astuces, au fond d'écran, ainsi qu'une base de connaissances sur l'iPad.
Merci en tout cas à tous les deux pour ce premier numéro de Tablette Café de nous accompagner. Et on passe tout de suite à la rubrique des news. Cette semaine, pour les news, nous allons aborder plusieurs choses avec vous, notamment les chiffres de vente d'ordinateurs versus les chiffres de vente de tablettes tactiles en règle générale. On va parler un petit peu d'iOS 5, de Microsoft et puis la stratégie qu'ils ont adoptée avec les tablettes tactiles et la sortie du BlackBerry Playbook avec prise en charge d'application Android. Alors, concernant les chiffres de vente de PC, on en discutait un petit peu avant le début du podcast. On se rend compte un petit peu à l'usage, à la consultation des chiffres, que finalement les ventes d'ordinateurs de bureau classiques et laptops de manière générale n'ont pas tendance à complètement s'écrouler et en tout cas n'expliquent pas la recrudescence et les chiffres de vente de tablettes tactiles en règle générale. À 95% en tout cas ce sont des iPads aujourd'hui sur 2010. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres quand on regarde un petit peu ces chiffres et quel usage est-ce que vous faites des tablettes en général par rapport aux ordinateurs de bureau classiques?
On se rend compte que les gens en fait font un usage qui est limité en termes de divers usages de leurs terminaux, quels qu'ils soient, que ce soit le smartphone, la tablette pardon, ou l'ordinateur de bureau. Et en fait, forcément, quelqu'un qui s'achète une tablette, s'il lit ses mails sur sa tablette, il va pas forcément les lire sur son ordinateur de bureau. Au moins, si on est sur la partie vie personnelle et pas vie professionnelle. Donc en fait, ce type d'usage, lecture de mails, surf sur Internet et plus généralement consommation d'informations, en fait se déporte assez facilement sur une tablette parce que finalement c'est assez pratique de pouvoir lire ses mails depuis son canapé et de pas être obligé de s'installer devant son ordinateur pour lire un mail ou répondre à quelqu'un sur Twitter ou Facebook. Et donc on se rend compte vraiment que ces usages-là se déportent sur la tablette. Après, les tablettes n'étant pas encore des outils hautement professionnels sur certains aspects, tout ce qui est production, mais ça peut-être que Murat pourra confirmer, tout ce qui est production de contenu est un peu et encore réservé à tout ce qui est Mac et PC. Quoi.
Ouais, Murat, je pense que tu le constates, non, sans doute sur ton site que vous parlez principalement quand vous parlez de l'iPad en règle générale de consommation. C'est d'ailleurs pas péjoratif hein, quand on dit ça, mais de consommation de médias plus que de production en fait.
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'usage de l'iPad en France, tel que moi je l'aperçois, c'est plus quelque chose de ludique. Donc là où Apple a fait fort, c'est Ils ont réussi à sortir un produit qui finalement convient aux non-geeks comme aux geeks. Donc aujourd'hui, c'est principalement, comme tu as dit, la consommation de médias. Donc on va consulter ses mails, on va regarder la télé, télé à la demande. Mmh. Mais après, concernant l'aspect production, bon, c'est vrai que ça ne remplace pas encore un PC portable ou un PC de bureau. Mais on commence à avoir des petites applications assez sympathiques pour que ce soit pour bloguer ou même pour faire des présentations ou prendre des notes. Donc je pense que c'est quelque chose qui sera à surveiller dans le futur.
Ouais, enfin, je sais pas toi ou Pierre-Olivier, mais moi j'ai pas encore réussi à faire un seul billet complet bien organisé et joli graphiquement sur ma tablette. Ne serait-ce que de rajouter l'image, enfin une belle image bien retaillée ou genre de choses, c'est vite un peu compliqué, non?
C'est vrai que, enfin, même si WordPress ça fait quand même pas mal de progrès ces derniers temps, c'est vrai que c'est pas encore. Il faut un peu de dextérité avant de maîtriser la bête.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que les traits.
Ah, vas-y, excuse-moi.
Vas-y.
Ok, donc moi, de toute façon, pour moi, c'est clair que la tablette ou tout autre nouveau format pourra jamais remplacer une station de travail en bonne et due forme. L'année dernière, à peu près, c'est-à-dire peu après les premiers succès de l'iPad premier du nom, il y avait un certain nombre d'analystes qui prédisaient l'écroulage total des ventes d'ordinateurs en basant sur les simples premières ventes de l'iPad, qui étaient donc extrapolées sur plusieurs années. Mais le fait est que les ventes d'ordinateurs étaient déjà largement en pente descendante dans les pays occidentaux, en particulier ce que j'appelle les stations de travail, les ordinateurs fixes. Ça, c'est quelque chose que même les entreprises aujourd'hui ne renouvellent plus au niveau de leur parc informatique. On s'en va essentiellement sur l'ordinateur portable. Et ça, c'est une vraie tendance de fond, en revanche. Et au niveau des tablettes, moi, je plutôt totalement, c'est clair que c'est un périphérique de consultation. Cela étant, un petit bémol, il y a des choses quand même qu'on peut faire, même si aujourd'hui c'est pas optimal, la tablette peut parfois prendre le relais de l'ordinateur, pas dans le sens de le remplacer, mais en assurer la continuité. C'est-à-dire, je suis dans mon salon en train de consulter une recette de cuisine ou quelque chose comme ça, et puis je vais pas emmener mon ordinateur portable à la cuisine, même si je pourrais le faire. Là, je vais plutôt prendre la tablette, m'arranger pour recevoir la page web que j'étais en train de consulter sur mon ordinateur. Et puis de là, je vais pouvoir éventuellement travailler, mettre un minuteur, ce genre de choses. Donc, il y a quand même des usages qui peuvent être assez riches et pas forcément juste passifs, sortir du cadre photo numérique de luxe. Hein. Mais c'est clair pour moi, en tout cas, que les relatives baisses de ventes d'ordinateurs sont absolument pas imputables à l'éclatement du marché de la tablette.
On l'a vu d'ailleurs sur les sorties d'Adobe concernant l'application notamment pour Photoshop. Alors je l'ai pas testé, hein, mais j'en ai entendu parler et j'ai vu des petits tests sur en fait l'usage de la tablette par rapport à Photoshop, qui est juste une extension et qui simplifie un petit peu l'usage de Photoshop et qui donne accès à un certain nombre de raccourcis qui forcément du fait d'être tactile sont beaucoup plus pratiques à être utilisés pour un montage sur Photoshop. Je sais pas si l'un d'entre vous a vu un petit peu ce qu'ils ont fait.
Vu, oui, mais pas utilisé, enfin ni testé.
Je crois que c'est tout à fait, en tout cas, le reflet de l'usage des tablettes, en tout cas tel que moi je l'identifie. C'est vrai que j'ai l'impression que ça vient en complément, mais certainement pas en remplacement de certains éléments de production. Et face à tout ça, ça me fait penser aussi à ce qu'a sorti Google, ou en tout cas annoncé Google avec les Chromebooks. Est-ce que finalement, c'est pas certains avantages des tablettes et certains avantages des ordinateurs laptop qui ont été mélangés pour faire un nouveau produit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Des Chromebooks?
Oui, des Chromebooks, ouais.
Bah, les Chromebooks sont des appareils 100% connectés et quoi qu'on en dise, si on n'a pas de réseau, on va pas très très loin, même s'il y a une petite gestion du cache. Et de toute façon, on retrouve la même chose sur les tablettes, hein. Les tablettes aujourd'hui sont soit 3G, soit Wi-Fi plus 3G. Soit Wi-Fi, pardon, soit Wi-Fi plus 3G. Et en fait, pour utiliser ma tablette en mobilité quand je me déplace le week-end ou ailleurs, on est vite un peu court quand on n'a pas de réseau. Parce que la musique, on en parlera après, mais est dans le cloud ou peut l'être. Les Google Docs sont aussi dans le cloud, ce genre de choses. Et donc, au final, on est vite un peu sec dès qu'on n'a pas de réseau. On est vite content de retrouver un réseau Wi-Fi, que ce soit chez McDonald's ou dans un hôtel.
Deuxième sujet qu'il était opportun quand même d'aborder dans le cadre de Tablette Café, c'est les annonces d'iOS 5. Vous l'avez tous, je pense, vu, on a tous au moins entendu parler. Très rapidement, pour des personnes qui habiteraient sur Mars et qui n'auraient pas entendu parler des annonces d'Apple sur le sujet, on a quelques éléments d'innovation dans le système d'exploitation des iPod Touch, des iPads, des iPhone, mais en tout cas en ce qui nous concerne, des iPads. Mais finalement, ce ne sont pas des énormes révolutions, c'est plus une forme de mise à niveau. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut intervenir sur le sujet. Murat, peut-être?
Ouais, comme tu as dit, c'est pas, contrairement à ce que propose Apple d'habitude, ce n'est pas des choses qui sont révolutionnaires. Moi, j'ai plus l'impression que c'est pour essayer de se mettre à la page face à un Android qui grignote des grosses parts de marché. Donc c'est vrai que les fonctions qu'a pu intégrer Apple dans iOS 5, telles que Notification Center, donc c'est des choses qu'on trouve très bien sur Android. Donc là, Apple était un peu à la traîne. Donc moi, mon impression sur iOS 5, bon, à part certaines fonctions qui sont les bienvenues, telles que la synchronisation sans fil, c'est plus une mise à jour salutaire de la part d'Apple.
Tu penses qu'il y a des gens qui auraient pu switcher d'Apple, si jamais il n'y avait pas eu ces fonctions-là?
Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, ce qui fait la force d'iOS 5, enfin d'iOS et d'Apple, c'est la simplicité d'utilisation. Et si tu veux, avec un système qui commence à dater et avec des machines Android qui ont tendance, c'est vrai, à devenir de plus en plus plaisantes esthétiquement et tant au niveau de l'interface de l'iOS, le switch aurait pu être possible, effectivement, je pense.
Moi, j'ai tendance à penser que le nerf de la guerre, ça reste bêtement les applications. Moi, je vois sur mon iPad, une des applications que j'ai beaucoup utilisées, c'est l'application Comixology qui, je pense que vous la connaissez, vous permet de télécharger des comics et puis lire des bandes dessinées sur l'iPad de manière assez sympathique. Et en fait, quand on achète une intégrale de bibliothèque sur Comixology, enfin moi, par exemple, je me suis laissé séduire par la série Walking Dead que j'ai intégralement lu sur l'iPad, sur Comixology, j'ai tendance à me dire que j'ai pas envie de perdre cette bibliothèque et que j'ai pas envie de racheter une application qui me permettrait de lire ça sur un autre support. Donc en fait, est-ce que au-delà de toutes ces innovations qu'il y a dans iOS 5, est-ce que finalement la force d'Apple, c'est pas tout simplement d'avoir fait un parc d'applications gigantesque qui fait qu'on est complètement fidélisé et que derrière on a vachement de mal à en sortir? Enfin, je sais pas si aujourd'hui les innovations d'iOS 5 sont la seule raison qui vont faire que demain les gens vont garder un iPad. Je me rends pas compte d'un point de vue de quelqu'un qui voit bien, qui maîtrise bien tout ce qui est Android. Pierre-Olivier, toi de ton côté, ça te fait rigoler les annonces de iOS 5 concrètement, ou est-ce que tu trouves que vraiment il y a de la concurrence?
Mais écoute, en fait, il y a deux choses. D'abord, comme tu disais, on n'a pas envie de perdre ses applications. C'est le Canadien Stephen Elop qui a pris la direction de Nokia, qui disait il n'y a pas longtemps, lors de la conférence Uplink à San Diego, qui disait aujourd'hui, sur la mobilité et les gadgets de mobilité, on est sur une économie non pas de gadgets, de devices, mais bien sur une économie d'écosystème. Et c'est ce que Nokia a eu du mal à incorporer dans sa stratégie ces dernières années. Là-dessus, c'est certain, tu as raison et il a raison. Il y a un phénomène d'écosystème qui rend les utilisateurs, alors je pourrais dire captifs, mais c'est un peu connoté, mais en tout cas, qui fait que les utilisateurs n'ont pas forcément envie de quitter ce qu'ils ont aujourd'hui. Ceci dit, il y a aussi une stratégie marketing de la part de Apple qui les interdit en réalité d'être leader sur le marché. Enfin, du moins sur le long terme, parce qu'évidemment, à certains moments donnés, ils peuvent l'être, comme ils l'ont déjà été dans le passé, au niveau des ordinateurs personnels. Mais le fait de n'avoir qu'un seul terminal, qu'une seule gamme, qu'un seul type de périphérique, au bout du compte, sans regard de la qualité de la concurrence ou sans aucun regard vis-à-vis de la qualité de l'écosystème qu'Apple a, ça ne peut pas les conduire à rester leader, parce que les gens n'ont simplement pas envie d'avoir tous le même périphérique et que, de toute façon, la plupart des lois l'interdisent, je veux dire, les lois dans la plupart des pays interdisent cet état de fait. Donc, si on passe sur ce regard-là, du coup, les annonces d'iOS 5 sont un petit peu tristounes parce que, effectivement, pour ralentir ce noyautage par la concurrence, il faut quand même beaucoup d'innovation. Et en même temps, je me mets à la place d'Apple, qui sait très bien où est-ce que sa stratégie le mène, c'est-à-dire vers une vente à très forte marge, mais avec des parts de marché relativement importantes, mais pas leader. Est-ce que ça vaut la peine de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans la R&D pour arriver juste, pour garder les parts de marché un peu plus longtemps que prévu? Je ne sais pas.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me demande si, au final, le meilleur ami de l'iPad et de l'iPad 2, c'est pas l'iPhone. Et je me demande d'ailleurs si Apple cherche pas à verrouiller un petit peu. Bon, ça fait partie de sa stratégie, je pense aussi. Hein, quand on voit d'ailleurs les annonces d'iOS 5 qui sont très, très étroitement liées à iCloud, je pense qu'il y a une espèce de volonté de verrouiller un petit peu ces utilisateurs de ces terminaux. Et du coup, j'ai vraiment l'impression, effectivement, même moi qui suis un profond fanboy d'Apple et d'iPad, que effectivement les annonces qui sont faites d'iOS 5 sont véritablement pas des innovations et qu'on fait que rattraper un retard derrière. Si on veut vraiment un support innovant, ça reste aujourd'hui des supports qui seront pas Apple, quoi. Enfin, je pense que les choses vont évoluer dans ce sens-là.
Oui, alors après, en termes d'innovation, on en avait discuté chez nous il y a quelques temps déjà, mais il y a une schizophrénie un peu chez les constructeurs de tablettes, surtout des gens comme Apple ou d'autres, hein, qui font aussi du téléphone, aussi du PC, parce que on peut pas. Enfin, encore une fois, s'ils vendent trop de tablettes, ils vendront moins. Enfin, s'ils innovent trop, ils risquent de cannibaliser l'un des marchés. Si on fait des PC, des tablettes PC ou des tablettes Android qui peuvent se transformer en netbook comme chez Asus ou chez Samsung, forcément les PC, on en voit moins d'utilité parce que le terminal qu'on a, le device ressemble quand même de plus en plus à un PC, mais aussi une tablette. Donc, l'innovation, à mon avis, ils sont un peu limités et à moins de réussir à vendre, à imaginer un autre produit. Comme ils l'ont fait avec l'iPad, finalement, où l'iPad ne remplace ni l'un ni l'autre, mais c'est bien d'avoir le téléphone, l'iPhone, le MacBook, et en plus l'iPad, ça vous fera du bien. Là, pour le coup, ils arrivent en fait à suréquiper leurs utilisateurs qui sont plus ou moins captifs. Mais si jamais ils innovent trop, qui rajoutent trop de claviers à l'iPad, qui font une taille intermédiaire, plutôt 7 pouces ou 5 pouces, ce genre de choses, on commence à entrer en conflit avec d'autres produits et pour le coup, il pourrait y avoir cannibalisation d'une partie de leur segment. Quoi.
Est-ce que vous aviez d'autres remarques que vous vouliez apporter sur iOS 5 ou de manière générale sur les OS avant qu'on passe à Microsoft?
Non.
Bon. Non, pas en particulier.
Pas d'autres marques. Donc, on va aborder un petit peu la stratégie de Microsoft et les tablettes. Alors, on avait entendu parler d'ailleurs, c'était à l'époque du lancement de l'iPad 1, de support spécifique Microsoft avec des doubles écrans. Je me rappelle plus d'ailleurs le nom qui avait
été. Le courrier.
Voilà, le courrier qui avait été effectivement annoncé et qui a fait un flop.
Non, ça n'a pas fait un flop, il n'est pas sorti.
Oui, d'ailleurs, je veux dire, l'annonce a été complètement oublié derrière. En tout cas, ils ont annulé le projet chez Microsoft, voyant que concrètement, ils ne rattraperaient pas l'avance d'Apple sur le sujet, sur les tablettes tactiles en règle générale. On a vu des présentations de Windows 7, de Windows 8, pardon, avec des interfaces tactiles. Est-ce que vous avez des visions, vous, de ce que va pouvoir occuper Microsoft dans un marché qui est déjà, on l'avait dit tout à l'heure, un bien verrouillé à 95% par les iPads, même si le marché laisse imaginer que les choses vont évoluer vers les autres plateformes. Mais comment vous voyez Microsoft évoluer dans cet environnement, vous?
Moi, je reste assez dubitatif concernant Microsoft et la portabilité. Donc, quand je vois ce qu'ils ont essayé de faire, entre guillemets, sur les téléphones avec leur Windows Mobile, c'est vrai que voilà, c'est lourd. Je pense que c'est pas vraiment adapté à tout ce qui est support tactile. Après, j'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder les dernières vidéos de Windows 8, mais d'après ce que j'ai entendu, ça a l'air prometteur.
Ouais.
Donc moi, j'attends vraiment de voir si jamais Microsoft arrive à convaincre les développeurs. Donc c'est là le nerf de la guerre, pour avoir un parc d'applications assez grand pour essayer de convaincre les utilisateurs après.
En tout cas, ils communiquent beaucoup dessus, ils font énormément de concours là-dessus, hein. Ne serait-ce que sur Windows Phone 7, qui est quand même pas si mal que ça, hein. Autant je te rejoins sur Windows Mobile, c'était une catastrophe. Vouloir copier une interface de Windows XP à l'envers dans Windows Mobile, c'était bien d'essayer, mais je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées. Mais sur Windows Phone 7, ils ont quand même bien innové et je trouve que c'est plutôt un bon coup qu'ils ont joué parce que, enfin, mine de rien, quoi qu'on en dise, Android au départ n'était pas hyper révolutionnaire par rapport à iOS en termes d'interface. Et mine de rien, le Windows Phone 7, pour le coup, avait vraiment été pensé de manière différente, au moins sur les bureaux d'accueil. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Enfin, Microsoft et ce genre de terminaux, c'est quand même un peu le bordel, vous me passerez l'expression, mais moi j'ai une news sous les yeux qui date de mai 2010 où on annonce des tablettes Windows Slate pour Noël. Finalement, il y a quelques tablettes sous Windows 7 qui sont sorties, et là je pense que pour le coup c'était une belle bêtise, malgré peut-être l'ExoPC qui était un peu à part, parce qu'elle avait une surcouche, mais les autres, enfin, imaginez de débrancher la souris sous un PC sous Windows et d'essayer de cliquer avec le doigt sur l'écran. Enfin, je vous paye une bouteille de champagne si dans le panneau de configuration vous arrivez à configurer tous les trucs, quoi. Enfin, c'est pas pensé du tout pour le tactile. Et pour le coup, sous Windows 8, il se débrouille quand même pas trop trop mal, en tout cas de ce qu'on en a vu. Là où sur les applications ça pourrait bouger, c'est qu'ils pourraient tout à fait adopter la stratégie de BlackBerry, c'est-à-dire de s'ouvrir aux applications Android. Aujourd'hui, c'est pas fait officiellement par Microsoft, mais il y a une boîte qui l'a annoncé récemment. Je pense que Pierre-Olivier, tu pourras peut-être nous retrouver le nom, mais sur une boîte qui porte en fait les applications Android sous Windows. Donc, bah, mine de rien, on n'est pas très loin d'avoir des applications Android sous Windows 8 et donc sur les tablettes Windows. Donc, ça répond à la question d'avoir des applications en nombre suffisant, même si pour le coup Android pour le coup est pas très très bon en application tablette pour le moment.
Bah, je pense que là, ils ont pas trop le choix. Enfin, vu le nombre d'applications sur l'App Store, qui est entre 400 000 et 500 000, si jamais Windows veut essayer de survivre, c'est vrai que le fait de porter les applications Android sur Microsoft, ça peut être une bonne solution.
Ouais, alors après, mine de rien, en Windows, enfin, les tablettes Windows, ça reste un grand écran par rapport à un téléphone. Et le gros inconvénient qu'on voit sur les tablettes Android ou iPad, c'est que il y a pas de très très bonne application Office. Il y a des alternatives, mais enfin, un vrai tableur type Excel sous Android ou iPad, moi, j'en ai pas encore vu. Donc,
Bah, sur iPad, t'as quand même tout ce qui est Pages, Number
ouais.
et Keynote qui sont quand même assez, enfin,
Ouais,
assez
bon.
bien réalisés, donc.
Ouais, peut-être iPad, mais en tout cas sur Android, pour en avoir essayé quelques-uns, je n'ai pas été convaincu, mais peut-être que des tests d'application me feront mentir dans la rubrique suivante. Mais enfin,
Je
tout ça
crois que
pour dire que.
malheureusement, je te coupe. Enfin, moi, j'ai prévu de tester une application là dans l'épisode 1. Clairement, je rejoins ton avis et je rejoins malgré tout un petit peu aussi celui de Pierre-Olivier. Des applications qui synthétisent tout ça, c'est clairement pas bien porté. Pour dépanner ou pour certains usages bien spécifiques, c'est vrai que Pages, Number et Keynote sont pas trop mal, mais c'est quand même des exceptions, quoi.
Ouais, carrément. Et donc ça pour dire que bah Microsoft Office pourrait tourner sur une tablette Microsoft. Et donc ça fait quand même un sacré parc d'applications parce que les applications Windows, il y en a un bon paquet. Enfin, Firefox, Chrome en navigateur, on a tout l'Assist Office ou Open Office, il y en a pas mal. Donc, enfin, après il faudrait le structurer dans un Windows Store, mais Microsoft en parle, hein, version tablette ou version un peu comme le Mac App Store là sur Apple, sur les MacBooks, un peu dans cet esprit-là pour pouvoir télécharger et payer des applications moins chères qu'un Office. Mais à mon avis, les applications ce sera pas le plus gros des problèmes sur Microsoft.
Au niveau des applications, la petite information qu'il faut avoir, c'est que Windows 8 sera compatible avec la plupart des types de processeurs. Enfin, toutes les précédentes versions de Windows depuis NT l'étaient, mais il n'y avait pas de commercialisation en dehors de la plateforme Intel. Mm-hmm. Là, avec Windows 8, on va avoir un support officiel sur iOS. En revanche, ils vont avoir une très grosse difficulté, c'est que depuis un certain nombre de temps, en fait, depuis que Microsoft s'est fait une super grosse frayeur avec l'ascension d'OpenOffice, Microsoft met beaucoup, beaucoup d'argent dans l'ergonomie et le design, parce que c'est différent, des logiciels. Ce n'est pas vraiment le cas des développeurs d'applications Windows. Franchement, on peut carrément le dire. Toutes les applications professionnelles sont absolument hideuses.
C'est clair.
Et elles vont le rester pendant longtemps. Donc, la tablette Microsoft se positionnera comme ça. Elle va dire, ben moi, je suis compatible avec le temps. En fait, depuis que Microsoft s'est fait une super grosse frayeur avec l'ascension d'OpenOffice, Microsoft met beaucoup, beaucoup d'argent dans l'ergonomie et le design, parce que c'est différent, des logiciels. C'est pas vraiment le cas des développeurs d'applications Windows. Franchement, je pense qu'on peut carrément le dire. Toutes les applications professionnelles sont absolument hideuses.
C'est clair.
Et elles vont le rester pendant longtemps. Donc, la tablette Microsoft se positionnera comme ça. Elle va dire, ben moi, je suis compatible avec ce que tu as sur ton PC. Mais par contre, si tu sors de mon écran de tablette, je vais être super moche. Et là où il va y avoir un rôle à jouer pour le Windows Store ou peu importe comment ça s'appellera, le vecteur de distribution des applications de Microsoft, c'est qu'ils vont devoir être à la fois assez relax pour accepter beaucoup d'applis sur ce point de distribution là. Et en même temps, ils vont devoir être un peu stricts pour essayer de pousser les développeurs à intégrer les lignes de conduite en matière d'ergonomie qu'ils auront obligées. Mmh. Mais il n'y aura pas tout sur ce store et il sera possible, à mon avis, c'est toujours la projection, d'installer n'importe quelle application Windows traditionnelle qui, elle, sera probablement pas distribuée sur ce store-là.
Mmh. Autre sujet dans les news qu'on avait listé dans notre petit plan de route, c'était la sortie de BlackBerry Playbook avec la prise en charge d'applications Android. Sans trop rester trop longtemps sur ce sujet parce qu'on a une suite d'épisodes qui va arriver à grands pas, est-ce que l'un d'entre vous veut en toucher un mot? Moi, clairement, j'en ai pas entendu parler plus que ça, hein, du BlackBerry Playbook. Je me suis pas plus renseigné que ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus, il n'y a pas de souci.
Je peux donner deux, trois mots, étant donné que je vis au pays des caribous et des BlackBerry. la tablette BlackBerry, la Playbook, elle se positionne clairement sur un marché professionnel. Un des usages qu'on n'a pas cité tout à l'heure quand on parlait de la complémentarité ou autre des tablettes versus les ordinateurs, c'est qu'en entreprise, c'est quand même un fantastique prompteur enrichi qui permet de faire rapidement une présentation sur la table de la salle de la machine à café plutôt que de réserver une salle pour faire une vidéoconf de la mort qui tue avec un vidéoprojecteur qui met 10 minutes à s'allumer. Alors, ça, c'est une grosse force qui vient s'ajouter en plus des avantages de la plateforme BlackBerry, c'est-à-dire les services professionnels d'entreprise qui sont des services concurrents de Microsoft Exchange. Donc ça, c'est le pari que BlackBerry fait, que RIM fait, avec sa tablette Playbook, qui est le nouvel entrant dans la famille des BlackBerry. Et la famille des BlackBerry, c'est un truc qui porte assez mal son nom, et ça va être le gros problème de cette tablette, c'est que c'est une famille où il y a beaucoup, beaucoup de divorces, d'un point de vue technique. C'est-à-dire que entre BlackBerry OS 5 et BlackBerry OS 6, il n'y a plus rien qui marche. quand on s'appelle Ophor et qu'on a son application sur BlackBerry 5, et précédemment sur BlackBerry 4, et précédemment sur BlackBerry 3, ça fait trois fois qu'on développe la même application, parce que les API ont changé énormément. Quand BlackBerry 6 est sorti, on a dit merde, cette fois on ne fait plus. Et là, c'est encore un nouvel OS. Sûrement la dernière famille d'OS, parce que c'est enfin un OS Unix qui est pensé pour durer et pour évoluer. Mais il arrive un peu trop tard. Tous les éditeurs et développeurs d'applications sont fatigués, ils sont tannés, comme on dit ici, de développer des applications pour une plateforme qui change tout le temps. Et eux n'ont pas eu la solution de secours qui a été le web, parce que le navigateur, jusqu'à BlackBerry 6, il était pourri.
Oui, une belle catastrophe.
Oui, ça va être très très difficile pour RIM de jouer ses cartes, parce que dans le monde de l'entreprise aussi, on a des applications, ce sont des applications métiers, certes. Elles ne sont pas sur les App Store, certes, elles existent, elles sont capitales pour une entreprise. Si un commercial en déplacement ne peut pas se connecter à son outil de gestion de projet, eh ben, il ne peut pas travailler. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle l'entreprise a dépensé tant d'argent dans une solution éditée par RIM. Donc ça va être un peu difficile. La prise en charge des applications Android, rapidement, c'est pas très très sérieux. Ça marche, c'est facile à faire parce que effectivement derrière il y a un noyau Unix, donc le portage est relativement facile, mais c'est quand même un tout petit peu douloureux parce qu'il faut pas oublier que Google a réécrit 97% du code de la machine virtuelle Java pour des raisons de performance, et que c'est quelque chose que RIM n'a pas fait sur son portage et ne fera pas parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne, vu que maintenant ils externalisent même l'édition de l'OS. Donc moi je suis un petit peu sceptique. C'est un beau joujou, hein. C'est très bien foutu, l'OS est absolument nickel, mais stratégiquement parlant, là j'ai beaucoup plus de doutes.
Moi, ce qui m'intéresse quand même, à la fois, c'est un côté difficile parce que c'est un positionnement risqué, mais le positionnement de couplage fort avec des BlackBerry récents sous OS 6, je trouve ça quand même plutôt intéressant de se dire, bah voilà, j'ai pas un deuxième forfait à payer sur ma tablette pour un professionnel ou pour une entreprise. Je vais retrouver l'intégralité de mon contenu d'un côté et de l'autre. Donc, si j'envoie un message ou un mail d'un côté, je l'aurai de l'autre. Il y a quand même un couplage qui est intéressant entre les deux. Alors, pour le coup, si je suis pas équipé en téléphone BlackBerry, j'aurais une tablette qui aura pas de réseau, ou en tout cas pas de réseau 3G pour le moment. Mais je trouve que ce positionnement-là pour une cible professionnelle, c'est quand même plutôt intéressant. Et comme tu dis, l'OS est quand même plutôt bien foutu. Et à voir, quoi. Effectivement, c'est peut-être un peu tard, mais.
Mais ça même reste sur... vrai. Pardon, vas-y.
Excuse-moi. Non, même sur la synchronisation avec. Enfin, le tethering, parce qu'au final, c'est ça que c'est. Il y a un peu de risque. C'est clairement une idée canadienne parce que effectivement, si on paye nos forfaits cellulaires extrêmement chers, au moins on peut faire du tethering sans aucun problème. L'idée étant que si je paye pour 500 mégas, on voit pas pourquoi on pourrait pas les utiliser sur n'importe quel device. Il y a 500 mégas dans mensuel, bon bah voilà, je les paye, je les utilise, aucun problème. Donc il y avait cette idée-là que on comprend pas très bien pourquoi on mettrait une carte SIM dans la tablette, et là-dessus moi je rejoins assez bien la vision de RIM. Et en même temps, ils pouvaient pas demander aux gens de faire du tethering parce que justement un petit peu partout en dehors du Canada, c'est un tout petit peu complètement interdit par les opérateurs. Donc ils ont eu cette idée de couplage fort qui permettait de dire c'est pas du tethering, attention, ça fait partie de la solution BlackBerry. Enfin, pour commercialiser des BlackBerry, on doit l'accepter. Alors, commercialement, ça marche, ça permet aux opérateurs de pas élever la voix contre cette pratique. Mais du coup, ça ferme la porte à faire fonctionner ça avec autre chose que des BlackBerry. Et,
ouais.
Bon, c'est un pis aller, en fait.
Ouais, effectivement, je pense pas que ça s'ouvrira un jour, ou en tout cas un jour proche, à autre chose qu'à des BlackBerry. Et c'est bien dommage, mais enfin, je trouve que le positionnement est à la fois risqué, à la fois séduisant, intellectuellement parlant. On verra, je suis pas sûr que ça marche, mais
Ça,
c'est
c'est
intéressant.
d'accord.
Eh ben, si c'est bon pour vous, en tout cas, je vous propose qu'on clôture cette partie news qui est quand même plus conséquente que ce qu'on avait anticipé pour ce premier épisode du podcast et qu'on passe à notre partie des tests. Et dans cette partie des tests, je vous propose que, bah tiens, je vais prendre la main au tout début pour vous parler d'une application. Ce que je vous propose, c'est que pour les tests, on vous parle soit d'applications qui nous paraissent pratiquement indispensables dans un usage de notre tablette, ou au contraire, qu'on souligne un petit peu les aberrations de certaines applications, car dans mon cas, j'ai testé Docs2Go. J'ai même testé la version premium pour iPad. C'est une application universelle que l'on peut installer donc sur iOS, que ce soit iPhone, iPad ou iPod Touch, dont la version standard est à 7,99 € et la version premium est quand même à 13,99 €. Très rapidement, mon objectif, c'était de pouvoir accéder à mes Google Docs de manière confortable sur ma tablette tactile, depuis en tout cas mon iPad, pour pouvoir modifier les documents, sinon les rédiger intégralement, en tout cas pouvoir les ajuster, utiliser les commentaires, faire toutes les fonctionnalités qu'on a l'habitude de faire dans Google Docs. Et donc je me suis penché sur plusieurs applications et j'ai testé celle-ci au vu de certains tests qu'il y a eu sur Internet. Et alors en fait on se retrouve dans une application avec un aspect hyper austère. On parlait tout à l'heure de Lotus Notes qu'on peut avoir dans les entreprises. On se retrouve dans le même type d'environnement applicatif. Très rapidement, pour vous faire une synthèse de ce qu'on peut faire dessus, on peut créer des docs en local, donc ça va être des documents Word, Excel, PowerPoint ou même des mails avec des pièces jointes, mais ça reste des docs en local. Donc déjà, la synchronisation, on connaît, est pas parfaite entre les supports iOS et les ordinateurs de bureau. Donc déjà, on se retrouve avec des documents qui vont être un petit peu écartés sur notre tablette et qu'on va pas pouvoir forcément facilement partager avec notre environnement bureautique. On peut bien entendu les synchroniser avec iTunes, mais alors attention, il y a des bugs qui font qu'en fait le document peut ou pas être supprimé, il peut ou pas être ajouté. J'ai eu des comportements extrêmement aléatoires avec cette application. On a la possibilité, et ça c'est ce qui m'intéressait particulièrement, si on achète la version premium à 14 € bien entendu, de pouvoir accéder à ces documents sur Dropbox, Google Docs et tous les services du cloud. En fait, il s'avère que l'interface est vraiment ralentie, parce qu'en fait, quand on veut accéder à un document, par exemple Google Docs, il va falloir d'abord le télécharger sur la tablette, attendre le moment où elle va être téléchargée en local, il en fait une copie, on peut intervenir dessus, mais par ailleurs, si on veut le resynchroniser derrière, il faut qu'on fasse quelques manipulations. On ne sait jamais très bien si c'est synchronisé ou pas. On commence à être un petit peu perdu et on se demande si on va finir vraiment par utiliser cette application. Donc moi du coup je l'ai laissé tomber. C'est juste finalement mon test, une manière un petit peu déguisée de faire un coup de gueule sur certaines applications qu'on voit parfois sur le store. J'avais pas tant regardé les commentaires que ça et assez rapidement j'ai vu qu'effectivement ça correspondait aux commentaires. J'aurais dû être plus soigneux là-dessus. Mais pour 14 € une application qui est censée remplacer un environnement bureautique, finalement ça permet même pas de dépanner. Donc voilà, je voulais juste souligner le fait que pour moi c'est une application à fuir. Docs2Go, que ce soit la version standard ou premium, clairement à éviter. On attend évidemment fanboy Apple la sortie de iCloud pour synchroniser nos documents de bureautique avec Pages, Keynote et tous ces applications-là. Donc voilà, application à fuir. Autre test, Cédric, tu voulais nous parler d'une application pour Android.
Tout à fait. Alors, c'est une petite application gratuite, celle-là, et qui en plus est sympathique. Donc, ne vous en privez pas si vous avez une tablette sous Android ou Nikon. Ceux qui ont une tablette et qui aiment bien bidouiller un tout petit peu ont souvent besoin d'accéder à leur fichier. Donc, alors, j'ai plus le nom de l'explorateur sous Mac, mais sous Windows, c'est l'explorateur Windows.
C'est le Finder.
Bah, le Finder, effectivement. Le nom n'est peut-être pas des plus adéquats pour ça, mais l'équivalent du Finder ou de l'explorateur Windows, souvenez compte, c'est une petite application à télécharger qui s'appelle File Manager HD. HD comme haute définition, parce qu'il y a aussi une version pour les smartphones qui est plutôt sympa et qui a grosso modo les mêmes applications, mais là l'interface a été repensée pour la version sur grand écran. Et en fait, ça permet tout simplement de vous balader dans tous vos fichiers, donc vous me direz, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais si, quand je télécharge un fichier, quand je vais récupérer une photo qu'on m'avait envoyée par mail et que j'ai remis en local, quand je veux parcourir une vidéo ou ce genre de choses, ça permet vraiment de retrouver ça simplement sur son PC. L'interface est hyper bien faite, très, très bien finie. C'est gratuit, donc c'est supporté par la pub, mais c'est hyper discret, ça n'empêche pas du tout l'utilisation. Et moi, un petit plus de l'application qui m'a vraiment fait l'adopter, c'est qu'en fait, ça permet d'accéder très simplement et sans application tierce à vos stockages réseau. Si vous êtes sous Windows, moi, je me connecte sans aucun problème avec mon poste de travail sous Windows. Il le trouve comme un grand. Il suffit de lui rajouter son login et son mot de passe. Et en fait, il se connecte et vous pouvez avoir accès à tous vos fichiers. Donc ça, c'est plutôt très, très sympathique. Ça marche aussi avec le disque dur de la Freebox, avec le mot de passe, avec le mot de passe qui va bien. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une application qui est à pas rater. Ça coûte pas très cher parce que c'est gratuit et c'est vraiment pratique.
Les internautes vont nous taxer de pro-Android furieux en voyant les deux tests qui s'enchaînent, un pour un iPad qui est carrément à déconseiller pour un usage de bureautique et un qui a l'air carrément séduisant pour Android.
Mais non, Murat, il va nous faire quelque chose de bien sur iPad, j'espère.
Ouais, c'est bien sûr. En tout cas, peut-être pas pour les fichiers, on va voir ça dans la suite. Pierre-Olivier, tu avais prévu un petit test d'application.
Tout à fait. Alors, moi, l'application, je l'ai choisie en fonction de mes besoins personnels. Je ne suis pas un très, très grand utilisateur des tablettes, même si ce sont des engins que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que quand je ne les utilise pas, je m'en sers souvent comme cadre photo, en fait. Et justement, je cherchais une application qui permette de faire défiler mes photos. Et je suis tombé sur une application dont le nom n'a absolument rien à voir avec mes besoins et qui pourtant s'est révélée absolument super. Ça s'appelle Alarm Club Plus, que je peux voir avec App Alarm, mais c'est Alarm Club Plus. Elle est gratuite. Et en fait, il s'agit d'un espèce de gigantesque copier-coller de plusieurs des applications de base d'Android et qui ont été mises ensemble pour faire quelque chose d'assez sympa. Il y a parmi les fonctions principales un écran de base avec l'heure et éventuellement des widgets. Qui s'assombrit la nuit ou quand on branche le téléphone ou la tablette. Il y a évidemment une fonction de réveil, parce que bon, c'est quand même l'objet de cette application. Un réveil un petit peu agressif parce que il faut répondre à des questions mathématiques pour pouvoir
désactiver. Oh,
je rassure tout de suite tout le monde. On peut désactiver cette option pour les gens qui vraiment ne se réveillent pas.
Bonjour, il est 8h. Quelle est la racine carrée de...
Bon, c'est plus simple que ça, mais bon, voilà, c'est une des fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité de diaporama photo, c'est moi celle que je cherchais. Il y a un raccourci vers le lecteur de musique par défaut. Il y a tout un tas de réglages qui vont de préciser à quelle heure on se réveille jusqu'à qu'est-ce qui se passe sur le device lorsqu'on le branche au secteur. Alors moi, en l'occurrence, comme je vous disais, mon usage, c'est 4 photos numériques. Donc, quand je le branche, ça lance le diaporama, mais ça peut être aussi d'autres applications. Pour un téléphone, parce que bon, c'est pas seulement tablette, ça peut être juste afficher l'heure avec très faible luminosité pour faire vraiment comme un réveil dans la chambre. Et j'ai trouvé cette application vraiment très très sympathique, même si les paramètres sont un petit peu fouillis et très très mal traduits. Voilà, moi elle comble tous mes besoins sur mes petites tablettes.
Je suis en train, je viens de la télécharger, je suis en train d'essayer, de l'essayer, effectivement, ça a l'air sympathique.
En tout cas,
j'ai pas encore trouvé les réglages mathématiques, mais.
C'est vrai que c'est.
Elle est un peu difficile à prendre en main au niveau des réglages. J'ai mis du temps quand même.
Ah,
Elle est assez foutue au niveau des réglages.
y a un truc marrant, c'est secouer pour mettre en sommeil. Le matin,
C'est
au
quand
lieu
même
d'appuyer
énorme.
sur snooze, tu secoues ta tablette avec le risque de la péter. Mais pourquoi pas?
En tout cas, c'est le genre d'application complètement inimaginable sur iPad. Et c'est, enfin, moi, encore une fois, étant grand fanboy des iPads, je regrette le fait qu'on puisse pas avoir plus d'applications comme ça qui sortent un peu du cadre de l'OS et qui transforment la tablette en un usage un petit peu différent. Merci en tout cas, Pierre-Olivier. C'est gratuit, tu nous as dit, hein.
Tout à fait.
Et ça
Oui, parce que
s'appelle.
la base est complètement logiciel libre. Donc, c'est une application qui est disponible gratuitement sur l'Android Market et qui s'appelle donc Alarm Clock Plus.
Merci beaucoup. Murat, tu voulais nous parler de quelque chose de peut-être un peu plus ludique, toi.
Ouais, alors là, moi, je suis très loin de ce que vous avez présenté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines vidéos sur l'utilisation faite de l'iPad par les enfants. Donc, je me suis dit, on va essayer de tester un truc un peu ludique en cette période de vacances. Donc, moi, je me suis intéressé au jeu FIFA 2011 sur iPad. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la franchise d'EA Sports.
Ah, tout le monde doit connaître, je pense.
Voilà, donc c'est un petit jeu de foot assez sympathique avec tout plein de licences pour avoir les noms officiels des différents clubs. Donc, moi, à vrai dire, mon iPad, je l'utilise vraiment pour tout ce qui est productivité. Donc, l'aspect ludique, je ne m'étais pas vraiment penché dessus. Et je pars avec un très fort a priori sur cette application. Donc, je me suis dit, enfin, c'est vrai que l'iPad n'est pas réputé non plus pour la qualité de ses jeux, enfin, du moins l'iPad 1. Et est-ce que pour le prix auquel je vais la payer, donc 5,49 €, je vais en avoir pour mon argent? Et bah, finalement, j'ai été agréablement surpris, parce que je me retrouve avec un jeu qui est vraiment très, très fluide, très bien fait. Donc, en termes de qualité, on va tabler du côté des graphismes de la PS1, peut-être. Donc c'est toujours mieux réalisé que la Wii. Donc, ça, de ce
Mais c'est
côté-là,
déjà pas
c'est.
mal en fait. Hein. Enfin, c'est vrai que quand on compare, moi j'ai toujours du mal à resituer un petit peu, mais c'est effectivement PlayStation 1, c'est finalement déjà pas si mal sur un média comme ça.
Ouais, puis de se dire qu'on a des graphismes comme ça sur un iPad 2. Attention, j'ai pas testé sur l'iPad 1, mais je pense que ça doit pas être loin. C'est agréable dans une tablette qui fait 600 grammes et qui est toute fine de pouvoir jouer à FIFA. C'est assez sympa. Donc, le jeu en lui-même, c'est comme j'ai dit, hein, on retrouve du FIFA tout craché, donc différents modes qui permettent de faire des parties de football assez rapides ou des championnats ou même des coupes. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais, moi, j'insiste vraiment sur le côté jouabilité, sur le côté graphisme. Je pense que les équipes d'eSport ont fait un très bon travail de ce côté-là.
Et
Et
alors,
au niveau des commandes, ça dit quoi?
ouais,
Parce que
j'allais poser la même question justement.
en fait, c'est ça. J'en ai parlé de façon positive, mais moi, avec mes gros doigts, j'ai un peu de mal sur l'iPad. Donc, c'est un joystick tactile qui répond malgré tout assez bien. Mais voilà, enfin, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne un peu plus que quelques jours avant d'affronter les meilleurs.
On peut jouer en réseau ou pas?
Alors, dans la description de l'application, c'est marqué qu'il y a une possibilité de jouer en Wi-Fi ou en Bluetooth. Alors moi, je dois être un peu fatigué ou complètement aveugle, mais je n'ai pas réussi à trouver cette option. Donc, je ferai un petit retour par la suite, je pense,
C'est
quand
vrai que
j'aurai trouvé l'application.
c'est écrit multijoueur local, ouais, face à face, et on peut jouer avec un ami qui est sur iPhone ou sur un autre iPad. C'est marrant, ça, comme concept, mais c'est pas bête.
Ouais, c'est
Ouais, je
marrant.
pense que ça change un peu de la PlayStation ou de la Wii, donc, de jouer comme des autistes
Mais
à deux
cela
mètres l'un
dit,
de l'autre sur des iPads, ça peut être sympa.
Ouais, effectivement, ouais.
C'est vrai que l'intérêt qu'on peut s'attendre à avoir sur ce genre de truc, c'est effectivement de pouvoir jouer à travers Internet avec, je sais pas, de la famille qui est peut-être située loin ou des amis, pourquoi pas situés au Canada. Et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'usage démocratisé comme ça, de jeux sur lesquels on peut s'envoyer un petit message. Ils nous avaient vendu Apple le Game Center comme étant une innovation qui allait dans ce sens-là, où on pouvait inviter les gens à jouer. Et alors, moi, j'en ai jamais vu la couleur, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un jeu qui s'appuyait là-dessus, quoi. En tout cas, FIFA 2011 sur iPad et ça coûte.
Ça coûte, alors ça c'est le bémol, c'est 5,49 €. Mais je pense que si vous avez un petit enfant qui passe ses journées dessus, ça peut être vite rentabilisé. Donc, et surtout, la chose à savoir aussi, c'est que l'application pèse assez lourd, donc c'est presque 1 giga et demi
Là.
pour l'installation. Donc, prévoyez un peu de place avant
Et en
d'avoir
wifi surtout.
installé. Ouais, surtout. Enfin, là, je pense que ça passe pas en 3G.
On essayera de mieux équilibrer dans les autres épisodes parce que là, on a eu deux applications smart et pratiques pour Android et deux applications lourdes pour iPad et chères. Quoique celle de Murat semble un peu plus séduisante que la mienne, mais je pense que c'était volontaire de mon côté. Merci pour ces petits tests d'application. Je vous propose qu'on passe tout de suite et rapidement au coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur et coup de gueule pour cet épisode 1 de Tablette Café. Là encore, je vais enchaîner de mon côté. J'ai un petit coup de cœur parce qu'on parlait juste avant des jeux et pourquoi je m'intéressais à l'aspect jeu en réseau de FIFA 2011, c'est que j'ai découvert Order and Chaos qui est sorti sur iOS depuis quelques temps. C'est produit par Gameloft. Il y avait même une promo ces derniers jours pour découvrir le jeu je crois que c'était autour de 1 €, donc ça valait vraiment le coup. Pour description très rapide, c'est un MMORPG qui est une repompe totale de World of Warcraft auquel j'ai joué pendant pas mal de temps et on retrouve des sensations de World of Warcraft en n'ayant pas forcément les inconvénients qui font qu'on oublie sa vie sociale. Et c'est un vrai MMORPG dans le sens où on retrouve vraiment des joueurs en ligne et il y a vraiment beaucoup de monde qui s'y connecte en même temps. Ils ont fait quand même quelque chose d'assez sympa. Je vous invite à découvrir Order and Chaos de Gameloft. Et puis mon petit coup de gueule, c'est tout simplement le dictionnaire français qui est toujours absent dans iBooks, l'application pour lire les livres de Apple sur iPad et sur iPhone, mais notamment sur iPad. J'aime bien lire les livres sur iBooks, mais alors à chaque fois que je teste le dictionnaire, on me met non disponible. Il y a toujours le lien Wikipédia, mais je trouve que ça fait un petit peu tâche depuis le temps. Ils nous ont annoncé un dictionnaire dans iOS 5 qui était porté et qui était ouvert pour toutes les applications. Déjà qui ne fonctionne pas sur iBooks, sur iOS 4, ça promet. Coup de gueule pour toi, Cédric.
Alors un coup de cœur, coup de gueule, parce que c'est le même sujet, c'est sur les politiques de prix. Pour le coup, j'ai plus parlé des tablettes Android parce que l'iPad a sa politique, puis de toute façon, ils étaient les premiers sur le marché grand public, donc ils font ce qu'ils veulent et ça a marché, donc on n'a pas tellement à critiquer. Mais pour le coup, dans les outsiders, parce que ce sont des outsiders, ceux qui sortent des tablettes après, forcément, en essayant à chaque fois de se positionner comme un iPad killer, tous les premiers ont fait un grand n'importe quoi au niveau des prix en sortant des tablettes qui commencent à 700 $ et forcément, quand on passe du dollar US à l'euro, et ben on garde le 700 €. Et je trouve ça un peu n'importe quoi parce qu'il y a aucune justification technique ou software. Et c'est pas parce qu'on est la première tablette Android qu'on a le droit de sortir un truc qui vaut quasiment 2 fois le prix de l'iPad. Donc dessus c'est un vrai coup de gueule. Mais la bonne nouvelle c'est que les constructeurs commencent à changer. Même des gens comme Motorola font en ce moment une promo énorme de 100 € de remboursé en tant que constructeur. Donc hors financement de forfait ou genre de choses qui pourraient avoir lieu avec un opérateur téléphonique. Donc un vrai positionnement à la baisse de la part de ce type de constructeur, donc c'est quand même plutôt une bonne chose, mais c'est à confirmer. Et puis à côté de ça, on a quelques petits constructeurs qui, enfin petits, c'est pas des petits, mais du type Acer qui sortent des produits tout à fait sympathiques, équivalents techniquement hein, des Motorola Xoom ou des tablettes de ce type-là, mais qui sont à des tarifs plus abordables et qui concurrencent, enfin, en fait, qui s'alignent sur les prix de l'iPad. C'est pas encore hyper hyper agressif en termes de position tarifaire, mais c'est quand même plutôt mieux pour le consommateur parce que, enfin, si on veut que ce type de terminal s'adapte, il faut que les prix prix trouve un marché et sur des tablettes à 700 euros, je vois pas bien comment on pourrait convaincre des gens à acheter une tablette.
Ça représente quand même un sacré budget, hein, c'est clair en fait.
Hein. Bah, surtout que la grande question, c'est à quoi ça sert. Donc, si accessoirement ça sert à rien et qu'en plus ça coûte une fortune.
C'est un peu paradoxal, c'est clair.
Donc voilà. Et, mais par contre, un petit coup de cœur quand même pour une petite application que j'utilise beaucoup sur mon Android Phone, qui est le clavier SwiftKey, qui est sorti en bêta sur tablette pour l'instant, en bêta privée, sauf erreur, à moins que ça passe en public récemment, mais qui est vraiment un clavier qui améliore beaucoup le clavier de base d'Android Honeycomb et qui permet à la fois d'avoir une écriture prédictive, donc il apprend votre langage. Mais pas que au niveau des mots, c'est-à-dire que si vous écrivez tous les jours à votre maman préférée, vous en venez avec une, je t'aime maman, bah dès que vous écrirez je t'aime, il vous proposera maman derrière. Et bah,
ah, c'est vraiment génial ça.
Non, non, mais c'est vraiment top. Donc au-delà du je t'aime maman, c'est assez sympathique. En plus de ça, le clavier est découpé en deux, comme ça a été fait dans iOS 5, mais ça existait avant. C'est-à-dire, quand on tient la tablette en mode paysage, bah, au niveau des deux pouces, gauche et droit, on a vraiment la moitié des claviers et tout le clavier pour écrire du texte est accessible. Donc ça, cumulé à l'écriture prédictive, c'est hyper pratique et c'est un vrai bonheur. On pourrait presque écrire des romans sur une tablette sans avoir Word, donc c'est plutôt sympa.
Pierre-Olivier, de ton côté, est-ce que tu as des coups de gueule, coup de gueule?
Alors, des coups de cœur, j'ai eu beau chercher...
T'étais aigri aujourd'hui.
je suis un râleur, alors j'assume, je n'ai pas de coup de cœur, je n'ai que des coups de gueule. J'en ai un gros... J'en ai gros sur la patate, comme on dit. À propos des opérateurs, peu importe le pays, je constate des aberrations totales d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial ou d'un point de vue technique. Pour avoir quitté la France il y a quelques temps maintenant, je peux dire que la 3G qu'on peut avoir à Paris est à peu près équivalente au GPRS qu'on a en Roumanie et à l'aide qu'on a au Canada. C'est un premier exemple qui est dû à un certain nombre de choses. Alors, on nous parle souvent de congestion des réseaux, mais en réalité, quand on regarde les chiffres que les opérateurs publient eux-mêmes, on constate qu'ils utilisent une bande, enfin, okay, ils se réservent une bande considérable, une bande passante considérable pour la voix qui est absolument pas utilisée et qui n'a pas lieu d'être, à part peut-être le soir de Noël et encore, ça serait mieux pour les SMS, soir de Nouvel An, je voulais dire. Et donc ça, c'est une première chose. Au niveau tarifaire, il y en a une deuxième, c'est que on a quand même, alors là, ça va être plus au niveau nord-américain, on a quand même des tarifs qui sont absolument, c'est pas mal du vol quand je compare le prix de la data mobile aux États-Unis, Canada versus par exemple l'Italie, c'est vraiment bon, c'est ça va du simple au quintuple pour la même chose. Dans des pays qui sont quand même somme toute assez similaires, parce que je sais qu'on va me dire oui, mais il y a les grands espaces, etc. Ça coûte cher à couvrir. Ouais, enfin, ça c'est seulement si on les couvre, parce que c'est pas le cas du tout.
Ouais, effectivement.
Il n'y a pas la 3G partout à San Francisco. Il faut juste se rappeler ça. Alors que à Paris, il y a l'Edge jusque dans les catacombes, par effet de rebord avec le métro, mais. Il y a quand même, enfin voilà, la couverture est pas la même, donc qu'on ne parle pas de frais de couverture puisque il n'y a pas d'investissement de ce côté-là. Pareil sur les résiliations d'abonnement, et ça c'est valable dans tous les pays. Il n'y a jamais un seul opérateur qui respecte la loi du pays dans lequel il est, et ça c'est un petit peu gonflant quand on est un particulier et qu'on a relativement peu de moyens de se défendre. Et qu'un opérateur vous menace de vous ficher préventel, donc c'est un registre un petit peu comme le registre de la Banque de France, mais pour le téléphone. Donc oubliez ça, prendre un forfait après que vous êtes fiché. Ça, c'est pour la France, mais pareil partout. Et d'une façon générale, j'ai un peu l'impression que le monde des télécoms va de plus en plus vers une... pourriture des acteurs, comme on peut voir dans certains pays, dans le secteur de l'immobilier, où les prix sont complètement alignés sur la concurrence, où l'acheteur n'a absolument aucun droit, si ce n'est celui de payer et de se faire relever son hypothèque sans qu'il comprenne pourquoi. Donc voilà, c'est un petit peu le gros coup de gueule sur ce milieu des télécoms qui, pour le consommateur, est très difficile à déchiffrer et qui apparaît vraiment complètement vorace. On paye beaucoup, on a le droit à relativement peu de choses, et en plus, quand ça se passe mal, on n'a vraiment pas beaucoup de recours.
Murat, de ton côté, coup de cœur, coup de gueule.
Je vais commencer par mon coup de gueule et
on enchaîne.
Décidément, c'est la soirée des aigris.
Non, enfin, c'est pas vraiment un sujet sur lequel être aigri, mais je trouve que c'est un peu fort de café de la part d'Apple. C'est le dépôt d'un brevet pour l'interdiction de filmer durant les concerts. Déjà que Apple est réputé pour ses machines ultra fermées, ses systèmes d'exploitation ultra fermés. Je trouve que c'est un peu fort de vouloir limiter l'utilisation des gens qui possèdent un iPhone. Déjà, quand on achète un iPhone, c'est un investissement, à part si on le prend avec abonnement, mais si c'est une machine à 600 €. Et de te dire que par la suite, tu ne pourras pas filmer tel ou tel événement, ça me choque un peu. Donc, ça, c'est mon coup de gueule.
Écoute, c'est un brevet,
C'est un brevet. Après, ce n'est pas dit que ce sera exploité, mais de là à penser que... De se dire qu'Apple, effectivement, a pensé à ce genre de trucs, moi, ça m'exaspère un peu.
Donc, de manière logicielle, il pourrait empêcher de prendre une photo, de filmer pendant...
En fait, si tu veux, il y aurait des capteurs infrarouges qui seraient installés sur l'appareil photo de l'iPhone.
Ouais.
Et selon des paramètres préétablis au départ, il serait en mesure de reconnaître si jamais tu filmes un concert ou pas.
C'est proprement hallucinant, ce truc-là. J'avais pas du tout entendu parler, voilà. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Que
bah, moi, c'était mon coup de gueule de la semaine. Et concernant mon coup de cœur, bon, bah, c'est un tout petit truc, mais je pense que c'est notable. C'est l'apparition de nouvelles fonctionnalités de Google sur iOS. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur vos iPhones. Vous avez droit maintenant à quelques petites icônes sympas sur votre page d'accueil. Donc, vous pouvez repérer rapidement des restaurants, des cafés, des bars ou même des distributeurs de billets. Donc ça a l'air anodin comme ça, mais pour l'avoir testé samedi soir, ça m'a bien sauvé la vie. Donc moi, c'était mon petit coup de cœur de la semaine. Voilà.
Entendu. Merci beaucoup, Murat. Merci à tous. Ça, ce sera mon coup de cœur personnel. Merci à tous d'avoir participé à ce premier épisode de Tablette Café. On se donne rendez-vous, je pense, d'ici 2 semaines. On va essayer d'entretenir un rythme d'environ toutes les 2 semaines pour ce podcast. Je vous propose, avant qu'on clôture, de nous dire où on peut vous retrouver les uns et les autres. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
On peut me retrouver sur tablettetactile.net. Vous cherchez tablette tactile dans Google et vous devriez nous trouver sur Twitter, @tablettetactile au singulier, et sur notre forum, forum.tablette-tactile.net.
Merci Cédric. Pierre-Olivier, de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver à part sur Skype pour le Canada ?
On peut me retrouver donc sur frandroid.com. L'actualité générale des terminaux Android dans les pays francophones. On peut aussi me retrouver de plus en plus sur lesardoises.com qui traite, comme son nom l'indique, des tablettes. Et puis sur Twitter, Crovax. Voilà.
Crovax, ça s'écrit avec un O en zéro, c'est ça, je crois, non ?
C'est ça, parce que c'était déjà pris.
Ça devient une denrée rare aujourd'hui. Murat, de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, sur le blog apple-i-pad.fr, donc là, logiquement, vous avez accès au compte Twitter du blog, et vous pouvez aussi interagir via les commentaires ou le formulaire de contact.
Et pour ma part, outre sur Tablette Café dans 2 semaines, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je suis Guillaume, GUYHOM. En conclusion, un petit mot quand même pour vous dire qu'on a mis à disposition, n'est-ce pas Cédric, un répondeur pour le podcast.
Exact, un répondeur qui vous permet d'envoyer des petits messages audio qu'on essaiera de diffuser la prochaine fois. N'hésitez pas à donc vous enregistrer avec votre smartphone, votre tablette ou quoi que ce soit d'autre, à nous l'envoyer par mail à l'adresse suivante, répondeur@tablette-tactile.net.
Et puis, si vous avez apprécié ce podcast ou si au contraire vous avez des critiques à apporter sur ce podcast, n'hésitez pas à aller fouiller Tablette Café sur l'iTunes Store et apporter vos commentaires. Merci à tous de votre participation pour ce premier épisode et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci.